Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Des animaux, des plantes menacées de disparition à cause de l'expansion des villes, du défrichement des forêts, de l'industrialisation très exagérée de certaines régions. Air connu, hélas, air très contemporain. Alors, il faut se battre. Organiser une conférence ? Réponse connue, réponse également très contemporaine. La Tribune de Paris, qui suit, se posait la question de la protection nécessaire de la nature le 29 septembre 1948.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Convoquée par le gouvernement français et l'UNESCO, une conférence internationale de protection de la nature s'ouvrira demain au palais de Fontainebleau. Toutes les nations adhérentes à l'ONU y seront représentées.
Pourquoi et contre quoi convient-il de protéger la nature? Et comment? C'est ce que nous demandons ce soir à quelques-uns de ses amis.
Autour du micro sont réunis
Henri Flon, secrétaire du Conseil national de protection de la nature en France, rapporteur général de la Commission des réserves de la forêt de Fontainebleau.
Auguste Houdin, inspecteur général des eaux et forêts, directeur de l'École nationale des eaux et forêts.
Le docteur Charles Bernard, président de la Ligue suisse pour la protection de la nature.
Et André Billy, de l'Académie Goncourt, président des Amis de la forêt de Fontainebleau.
Émile Dana va mener le débat.
La plupart d'entre vous, messieurs, prendrez part demain à la première conférence internationale de protection de la nature. La singularité relative de vos travaux ne vous échappera pas, car enfin, protéger les oiseaux, les arbres, les paysages, au moment où jamais peut-être depuis quelques années, l'homme lui-même n'aura paru plus menacé, n'est-ce pas un paradoxe? Monsieur André Billy, c'était je crois la conclusion d'un article paru ce matin, nous expliquait cependant que le meilleur moyen de préserver l'homme du péril atomique était encore de constituer des réserves d'animaux à poil.
Je ne crois pas avoir dit tout à fait que la meilleure façon de nous préserver de la guerre, ce serait de protéger les animaux à poil. En tout cas, je n'ai fait que citer l'opinion d'un docteur canadien, le docteur Stevenson, pour qui le témoignage le plus frappant, le plus décisif de la haute civilisation dans un pays, c'est de ne pas prendre des animaux sauvages au piège. Il y a évidemment, dans ce point de vue, une exagération manifeste. Parce qu'il y a des animaux qu'on ne peut guère prendre qu'au piège, par exemple les renards. Et je disais que si nous laissions les renards et même les lapins se repeupler librement, et si nous ne luttions avec eux qu'à armes égales, c'est-à-dire sans piège ou sans armes à feu, nous serions évidemment bientôt envahis par le gibier qui nous affamerait en mangeant nos légumes et nos volailles. Enfin, ceci nous éloigne un peu évidemment de la question. Il est certain que réunir actuellement, au moment critique que traverse la politique internationale, réunir, faire coïncider avec les séances plus ou moins solennelles et dramatiques de l'ONU, des séances d'une conférence pour la protection de la nature paraît un peu paradoxal. Pendant les deux idées sont intimement liées à un certain niveau de pensée, la protection de la nature et la protection de l'homme, c'est un peu la même chose.
J'entends bien, et cela justifierait déjà la conférence qui s'ouvre demain. Mais je crois que cette conférence a des origines lointaines sur lesquelles le docteur Bernard pourrait nous éclairer.
Oui, je pense que je peux vous donner des explications sur l'origine de cette conférence. Depuis longtemps, on pense à la protection internationale de la nature. Et le grand pionnier suisse Sarrazin en avait déjà lancé l'idée et obtenu en 1913 qu'une convention internationale fût signée. Les circonstances, la guerre de 1914-18, ont empêché que cette convention se mit au travail. L'idée a été reprise en 1946. La Ligue suisse pour la protection de la nature a convoqué à Brunnen deux conférences préparatoires en 1946 et 1947 où fut créée l'Union provisoire de la protection de la nature internationale. On décida alors de demander au gouvernement français, en collaboration avec l'UNESCO, de convoquer une conférence ou pourrait être discutée et créée de façon définitive l'union qui doit être dans le cadre des nombreuses organisations internationales qui étudient des questions préoccupant l'humanité.
Je dois dire, messieurs, que...
C'est Henri Flon qui intervient.
Je dois dire que la conférence internationale qui se réunit demain à Fontainebleau et qui durera jusqu'au 7 octobre a choisi le lieu de Fontainebleau parce que c'est à Fontainebleau qu'en réalité est née la protection de la nature sous l'influence des peintres de l'école de Barbizon et de Théodore Rousseau en particulier. Il ne faut pas oublier que les peintres de l'école de Barbizon, les artistes, qui, au point de vue français, ont été les meilleurs ambassadeurs de notre culture artistique et qui, de plus en plus, prennent une place prépondérante dans les musées internationaux, sont ceux qui sont à la base de la protection de la nature, puisque ce sont eux et Théodore Rousseau en particulier qui a demandé la création de séries artistiques dans la vieille forêt de Bière, que l'on appelait ainsi avant qu'elle s'appelât forêt de Fontainebleau, en vue de que l'on conservât pour les artistes de cette école de Barbizon, pour les peintres, tous les vieux chênes, tous les vieux peuplements, et même certaines landes qui ne fussent pas boisées, pas remplacées par des pins, pour que leur modèle restât et que ces modèles leur servent non seulement à eux-mêmes, mais à leurs successeurs. Petit à petit, cette conception, née en 1853 et qui a été homologuée par un décret en 1861, créant environ un millier d'hectares de séries artistiques et qui actuellement en compte 1692 hectares, ces séries artistiques ont vu un autre genre de personnes, de personnalités s'intéresser à elle, ce sont les biologistes. Les biologistes, non seulement les biologistes français, mais les biologistes du monde entier viennent depuis le XVIIe siècle en forêt de Fontainebleau à la recherche de la plante rare. Ne croyez pas que la plante rare, ce soit la recherche d'un objet, d'un unique objet de collection, mais la plante rare à Fontainebleau, c'est la plante rare. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la limite de son aire, parce qu'elle trouve à Fontainebleau dans des conditions de milieu extrêmement particulières qui lui permettent de subsister. En effet, dans la forêt de Fontainebleau, vous trouvez non seulement des plantes rares, mais vous trouvez des insectes qui ont traversé les bouleversements de l'époque tertiaire et quaternaire et qui ont persisté dans certains lieux de la forêt de Fontainebleau. Autrement dit, la forêt de Fontainebleau est un grand conservatoire de biologie et c'est la raison pour laquelle Fontainebleau a été choisi comme siège de la conférence internationale pour la création d'une union de la protection de la nature.
Auguste Houdin,
vous avez parlé de la forêt de Fontainebleau, mais nous avons en France beaucoup d'autres réserves biologiques. Je pourrais citer notamment le parc national du Pelvoux, la réserve des Sept-Îles dans la Manche, la réserve de la Camargue. Et d'une façon générale, je crois qu'il est indispensable de bien montrer les différents aspects de cette protection de la nature. D'un côté, c'était l'idée initiale par laquelle on a commencé. D'un côté, c'est la protection au sens de la protection touristique, la protection artistique. Et dans ce cas, vous permettrez aux forestiers de considérer que le terme de réserve artistique qui a quelquefois été employé est un terme inexact. Le but est le même pour tout le monde. Il s'agit de conserver dans le meilleur état possible de végétation des peuplements qui font actuellement notre admiration. Mais pour les conserver, est-il bien nécessaire d'empêcher aux techniciens de venir se débarrasser des arbres qui actuellement vont devenir dépérissants, qui vont devenir la proie des insectes ou la proie des champignons? Il me semble qu'au contraire, le forestier devrait se donner pour rôle d'intervenir au maximum de façon à perpétuer le plus longtemps possible l'état particulièrement admirable de telle ou telle espèce de peuplement.
Henri Flon.
Si vous le permettez, monsieur l'inspecteur général, je vous dirai une chose, c'est que il n'y a pas uniquement le point de vue d'un bon peuplement. Vous pouvez avoir des landes qui présentent un grand intérêt au point de vue artistique, et les peintres de l'école de Barbizon l'ont montré, n'est-ce pas ? Des landes qui, au point de vue biologique, présentent un grand intérêt. Et donc, dans une certaine mesure, au point de vue biologique comme au point de vue pittoresque, vous pouvez avoir des territoires qui soient forestiers, boisés ou non, qui demandent à être classés, selon l'acception, en série artistique ou réserve artistique, c'est une question de définition et de technicien, soit en réserve biologique.
Tout à fait d'accord, mais ce sont deux notions, je pourrais presque dire, opposées. Dans un des cas, Il s'agit de conserver sur pied, dans son état actuel, dans le meilleur état possible de végétation, un peuplement que pour une raison ou pour une autre, qu'il soit lande ou qu'il soit forêt, vous désirez maintenir tel qu'il est à l'heure actuelle, le plus longtemps possible. Dans l'autre cas, au contraire, vous suivez l'évolution biologique naturelle, qui va d'ailleurs souvent vous conduire à un état totalement différent de l'état actuel. Je fais allusion ici, par exemple, à ce qui va peut-être se passer dans certains coins de la forêt de Fontainebleau, que vous allez mettre en forêt, en réserve biologique intégrale. Qui vous dit que dans quelques cas particuliers, la forêt ne va pas faire place à la lande? Qui vous dit que dans d'autres réserves biologiques intégrales instituées dans des peuplements de futaies, de chênes du centre ou de la France ou du nord-ouest de la France, qui vous dit, si nous ne les mettions pas en réserve intégrale, que nous ne remplacerions pas cette futaie de chênes qui fait actuellement notre admiration par une futaie de hêtres?
Eh bien, si vous voulez, messieurs, revenons à l'objet de notre conversation de ce soir et demandons-nous quels vont être les travaux de la conférence qui s'ouvre demain et quels vont être surtout ses moyens d'action. Docteur Bernard.
Je ne voudrais pas préjuger des décisions qui seront prises par la conférence, naturellement, mais je voudrais dire que nous espérons une union internationale où les gouvernements seront représentés et qui pourrait coordonner les mesures prises dans de nombreux pays en vue de protéger des objets naturels intéressants, des sites, des animaux, des plantes menacées de disparition à cause de l'extension des villes, à cause de la mise en culture de nouveaux terrains, de défrichement de forêts, de l'industrialisation exagérée de certaines régions. On protège les oiseaux, on protège les autres animaux, on a des réserves naturelles, comme les districts francs où la chasse est interdite et où les animaux peuvent se redévelopper et reconstituer le cheptel. C'est pour cela que nous avons demandé au gouvernement français, en collaboration avec l'UNESCO, de convoquer cette conférence où pourra être constituée l'Union internationale définitive.
Et vous pensez, docteur, qu'une action internationale est nécessaire pour protéger, dans certains cas, la nature?
Je crois que dans beaucoup de cas, et dans la plupart des cas, l'action est absolument nécessaire entre les gouvernements.
Henri Flon.
L'action, au point de vue de la protection de la nature, paraît être, si elle ne peut être gouvernementale, intergouvernementale complètement, doit être semi-gouvernementale, c'est-à-dire que les services intéressés, ce n'est plus le gouvernement qui est intéressé, n'est-ce pas? Ce sont les services intéressés, à quelque titre que ce soit, par la protection de la nature. J'entends par cela, au point de vue français ou tout autre pays, le département de l'agriculture, c'est-à-dire le ministère de l'agriculture, ne serait pas intéressé directement, ça serait la direction générale des eaux et forêts, l'éducation nationale, par la direction générale des sites, et le ministère de la France d'Outre-mer, par la direction de l'agriculture et des forêts.
Mais existe-t-il déjà des exemples précis de coopération internationale pour la protection de la nature? Henri Flon.
Au point de vue coopération internationale pour la protection de la nature, il y a des accords entre les gouvernements. Si je prends le problème de l'Afrique, par exemple, n'est-ce pas, vous avez une très belle réalisation qui a été faite par les Belges, c'est le parc national du Congo belge. Vous avez à côté le Kenya, à côté le Cameroun. Et vous avez des espèces, animales notamment, qui migrent entre ces grands territoires. Et ces grands territoires, évidemment, il faut prendre des mesures. Ce sont des mesures locales qui ont été prises jusqu'à présent. Il y a des conventions internationales qui ont été prises en ce qui concerne l'Antarctique pour la conservation de la baleine. Et les exemples sont extrêmement nombreux.
Auguste Houdin.
C'est également sur le plan international qu'il faut se placer pour apprécier les résultats de la réserve biologique de la Camargue, qui peut être considérée comme la plaque tournante des migrateurs. Et même réflexion en ce qui concerne la réserve biologique des Sept Îles dans la Manche, qui en somme a été instituée précisément pour protéger les macareux. C'est leur lieu de ponte actuellement le plus au sud.
Docteur Bernard.
Les exemples pourraient être nombreux d'ententes internationales pour la protection de la nature. Nous avons publié dernièrement le journal Pro Natura, dont ont paru dernièrement deux numéros, et où il a été indiqué aussi bien les nécessités de protéger la baleine, par exemple, votre magnifique île de Porquerolles, et d'autres régions qui pourraient être protégées par entente entre les gouvernements intéressés. Par exemple, des animaux qui se trouvent à cheval sur une frontière et qui pourraient être protégés par entente entre les deux pays. Juste comme ça.
Mais il n'existe pas tout de même pour protéger la nature que des raisons sentimentales, des raisons idéalistes. C'est ce qu'indiquait, je crois, André Billy dans son article de ce matin.
Oui, précisément, je voudrais voir la Conférence internationale pour la protection de la nature se justifier par des raisons autres que des raisons de curiosité scientifique des intéressés. On va nous demander, mais enfin, vous vous intéressez beaucoup aux chamois, vous vous intéressez aux gorilles, vous vous intéressez aux baleines, mais pourquoi ? Est-ce qu'il doit y avoir là d'autres raisons que un désir, en somme platonique, de voir se perpétuer des espèces animales qui au fond, n'offrent aucun intérêt au point de vue du progrès et de la civilisation. Je voudrais que la Conférence pour la protection de la nature nous explique son but le plus élevé, qui me semble être de protéger cette civilisation matérielle, dont nous nous plaignons tous tout en en profitant, de protéger cette civilisation matérielle contre ses propres abus, et de la mettre en garde, en somme, contre la destruction de certaines harmonies naturelles qui paraissent indispensables au progrès matériel, au progrès technique et même au progrès industriel.
Henri Flon.
Pour répondre à André Billy, je dois dire que l'UNESCO, organe culturel de l'ONU, a profité de la réunion de cette Conférence internationale pour la protection de la nature, de la présence à Fontainebleau de tous les techniciens, savants et experts qualifiant cette matière, pour leur demander des renseignements et en particulier faire une grande enquête qu'ils appellent un symposium technique qui est accolé à la conférence, accolé mais différent de la conférence de Fontainebleau, qui est en réalité une grande enquête sur la conservation du milieu dans le monde entier, et en particulier des sols et des végétaux et des animaux utiles à l'homme.
Auguste Houdin.
Vous venez de parler des sols, mais cette question des sols, dans toute l'Afrique en particulier, est une question primordiale. La forêt est en état d'équilibre dans quelques-unes de ces régions, en état d'équilibre souvent instable. Et il suffit de fort peu de choses, d'un feu, d'un incendie en particulier, pour amener la brousse, amener tous les phénomènes de l'atterrissage que l'on constate trop souvent dans des régions comme Madagascar, par exemple. Et ensuite, la reconstitution forestière devient absolument impossible.
Docteur Bernard.
André Billy a parlé de la protection, des nécessités de la protection du point de vue économique. Mais on pourrait lui citer plusieurs exemples. Quand il parle du chamois, par exemple, avec les districts francs que nous avons institués en Suisse, par exemple, on a augmenté le nombre des chamois de telle façon que ça devient, dans certaines régions de la Suisse...
Un danger,
Pas un danger, au contraire, une possibilité d'alimentation. Vous avez demandé l'utilisation, pourquoi les baleines seraient protégées, mais si les baleines disparaissaient, il disparaîtrait une énorme provision d'huile qui est très utile du point de vue économique à toute l'humanité.
André Billy.
Eh bien, mon Dieu, la raison que vient de nous donner le docteur Bernard de certains aspects de la question me paraît tout à fait frappant. Eh bien, la conclusion qui me paraît s'imposer à la suite de notre petite conversation, ce serait de dire que la protection de la nature fait partie d'une certaine forme d'humanisme que nos ancêtres ignoraient. On parle souvent d'un nouvel humanisme. Eh bien, je crois que la protection de la nature en fait partie. Je ne dis pas qu'elle est tout ce nouvel humanisme, loin de là. Mais en tout cas, elle doit y être intégrée. Et le but un des buts que doit se proposer la Conférence de la nature, c'est d'imposer cette idée au public.
Le docteur Charles Bernard, André Billy, Henri Flon et Auguste Houdin ont dit pourquoi et comment il faut assurer la protection de la nature.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
La Tribune de Paris, le 29 septembre 1948.